Bienvenue au podcast Upica, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, un vrai podcast de geek. Ça fait plusieurs personnes, dont deux invités sur le podcast, qui me parlaient de l'invité de cette semaine, Charles Castonguay, qui me disait « Reçois-le, tu vas voir, ça va être vraiment intéressant pour les auditeurs du podcast Upica. » Puis comme de fait, je pense exactement que ça tombe directement dans les cordes que je veux que le podcast aille, la portée en fait que je veux que le podcast aille. Charles Castonguay, qui est un préparateur physique en ce moment pour le Centre Excellence Sportive Québec, en fait, j'ai fait beaucoup d'affaires, fait que je me suis noté quelques petits trucs ici pour mettre en contexte c'est qui Charles Castonguay au-delà d'un athlète de très haut niveau en ultra trail par exemple ou même sur marathon. Charles a fait une maîtrise en kin à l'Université Laval. Il est même prof en ce moment à l'Université Laval dans le département de kin. Il est préparateur physique, comme je disais, pour le Centre Excellence Sportive Québec. Il travaille avec le ski, l'athlétisme, le triathlon, le biathlon, pour ne nommer que ces sports-là. Il a été assistant entraîneur et préparateur physique pour le Centre Pierre Harvey, qui est le centre de ski de fond. Il a travaillé donc avec Alex Harvey, plusieurs fois olympien. Dominique Maltais, qui fait du snowcross, plusieurs fois olympienne aussi. Charles-Philibert Thibouteau en course à pied. Anne-Marie Comeau, par exemple, une autre olympienne. Donc, ça, c'est quelques exemples d'athlètes avec qui il a travaillé. Donc, sa connaissance et sa pratique professionnelle est vraiment très large. Puis, en fait, je voulais le recevoir pour poser un tas de questions, parce que vous le savez, moi, le podcast Upica, je l'aborde de deux façons. La première, c'est dans ma quête de connaissances ou d'apprentissage qui pourrait m'aider dans ma pratique sportive dite « amateur ». Aujourd'hui, donc je fais de la course à pied, vous le savez peut-être, mais aussi j'aime ça prendre les conversations que j'ai avec les athlètes ou les entraîneurs ou peu importe qui je reçois sur le podcast et l'analyser à travers ma pratique de sport élite quand je faisais de la natation, donc essayer de mettre en contraste qu'est-ce que je faisais avant versus qu'est-ce qu'il faudrait faire et essayer de voir tout ça. Et je pense que c'est la base de la conversation avec Charles. Je le questionne sur plusieurs choses que moi j'ai fait ou que j'ai même enseigné à des jeunes ou j'ai même participé à un schéma qui, on se rend compte, vous allez voir dans la conversation avec Charles, qui est quand même à côté de la traque. Puis je crois que c'est le cas dans plusieurs sports. Là, j'ai la natation, moi, c'est mon exemple de prédilection parce que je sais de quoi je parle. J'ai fait partie de ce schéma-là. Puis c'est intéressant de remettre en question toutes ces croyances-là pour voir ensuite comment qu'on pourrait, créer une société plus en santé, mais de deux aussi, aller chercher plus de performance de la part de nos athlètes, en fait. Fait que, on parle de ça. On parle premièrement de qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les jeunes? Est-ce qu'il faut les spécialiser plus tôt, plus tard? Il y a plusieurs choses que la science nous dit qu'on semble ignorer dans une grande majorité des pratiques sportives. Ensuite, on parle de, par exemple, d'entraînement en force. Où est la place de l'entraînement en force dans un programme d'endurance? Est-ce qu'on devrait faire la périodisation de l'entraînement? Est-ce qu'on devrait faire des cycles d'entraînement ou juste un entraînement en constance? Qu'est-ce que la science nous dit de ça? C'est vraiment un podcast basé sur les études, sur la science. Puis ça, c'est super intéressant. Puis c'est extrêmement pertinent de garder ça en tête. On parle aussi. On parle de comment varier nos objectifs. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont abordées dans ce podcast-là qui méritent une attention. Du moins, je crois que ça mérite l'attention de tout le monde qui écoute. Puis là, aujourd'hui, c'est un podcast plus global, où est-ce qu'on va pas, on parle de plusieurs sujets précis, mais on va pas vraiment intensément dans un sujet en tant que tel. Puis j'ai l'intention de faire revenir des invités comme Charles, ou comme peut-être David Yecker qui était venu plus tôt sur le podcast, des geeks de statistiques puis d'études, puis de nouvelles façons de s'entraîner, si on veut, pour aller vraiment plus en détail dans certains sujets super précis. Dites-moi dans les commentaires ou écrivez-moi sur Instagram si vous pensez que c'est une bonne idée de faire ça, d'aller quelque chose qui s'appellerait, mettons là, on workshop là, des petites idées, là, mais j'avais le coin du geek en tête. Le coin du geek où est-ce qu'on va profondément dans un sujet en particulier, puis on l'analyse. Ça peut être des épisodes de 30 minutes, mais je crois que ça va pouvoir vraiment permettre de comprendre mieux certains enjeux. J'ai un cheveu dans la bouche. C'est parti. Évidemment, le podcast est présenté par Upica. Upica, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Notre premier produit, c'est le Upica Endurance. C'est tout ce que vous avez besoin pour vous carburer vos longs efforts. 25 g de glucides par portion avec 16 g de dextrine cyclique, qui est un glucide qui quitte l'estomac rapidement. Donc, on évite les maux de cœur, on évite les inconforts digestifs. Ceux qui le savent, là, vous savez que des inconforts gastriques lors d'un effort de longue durée, c'est une des pires choses à expérimenter. 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, rester hydraté, des électrolytes pour remplacer ceux que vous perdez à l'effort, de la taurine pour la création d'énergie et thermorégulation, et finalement de la vitamine B-C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. Tout ça en un seul scoop que vous mettez dans votre eau puis qui va vous accompagner à travers vos performances. Je vous le dis, si vous n'avez pas essayé, vous allez jurer que par ça maintenant. Moi, personnellement, je suis quasiment plus capable de partir sans mon Upica quand je pars plus qu'une heure et demie parce que la différence est majeure, non seulement sur la performance au moment de le faire, mais aussi sur la récupération parce que vous n'allez pas gruger inutilement dans vos réserves de glycogène. Vous restez au sommet de votre nutrition, en fait. Pour utiliser un code promo qui va vous donner 10% de rabais, allez au upica.ca et utilisez le code UPICAPOD2023. Donc, c'est le nouveau code pour l'année 2023, UPICAPOD2023 en un seul mot, 10% de rabais sur votre commande Upica. Et sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Charles Castonguay. C'est parti. Merci, man, d'être là. C'est super apprécié.
Ça fait grand plaisir. Ça... un fan de ton podcast déjà.
Merci, merci. C'est toujours plus facile quand les invités ils ont déjà écouté le podcast.
Ouais.
Là.
On sait c'est quoi le filon.
Puis... Ouais, exact. Ben écoute, comme je t'ai écrit sur Facebook, moi, ça faisait plusieurs personnes qui me parlaient de toi comme étant un invité qui serait potentiellement vraiment intéressant à recevoir sur le podcast. Fait que je suis content que ça se fasse. Première question, en fait. Toi, ton background en tant que sportif, quand tu étais plus jeune, mettons, ça ressemblait à quoi? C'était quoi ton sport de prédilection? Puis ça a été quoi ton parcours
j'ai
en tant
commencé,
qu'athlète?
J'ai commencé avec du bon vieux gym de sous-sol. Mon père avait un petit gym un peu boboche là, dans notre sous-sol, puis c'était parfait. Okay. Moi, j'ai commencé à lire des... Ceux qui connaissent un peu la musculation vont connaître les livres, là, les Delavier. Là, c'est des livres d'exercice là, qui te décortiquent les muscles un peu, puis je me faisais des plans d'entraînement avec ça. J'ai commencé vraiment avec la muscu.
Fait que t'as commencé avec la muscu,
ouais,
hein?
J'ai commencé avec la muscu.
Mais ça c'est quand même unique. Là, comme...
C'est parce quand même que... un avantage aussi, parce que quand t'es plus jeune, je te dirais, mettons, justement, entre... 12, 13, 14 pour les gars, bon, peut-être un petit peu plus tôt pour les filles, là, mais dans ces âges-là, je te dirais de développer tes qualités musculaires de force, de vitesse, de puissance, c'est quand même assez important mm-hmm. parce que c'est quelque chose que tu vas traîner longtemps dans ta vie après. Mm-hmm. Je te dirais pas que je suis le gars le plus puissant quand je me compare justement à ton dernier invité que tu as eu.
Ouais. Ouais,
on vient d'aller faire une séance de piste ensemble, puis je te confirme que
je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui est vraiment aussi puissant que Guillaume, là. Juste dans la société en général.
Il y a un autre gars qui court avec nous, Marco, qui a aussi fait du football. Okay. Puis tu vois, ils sont pas loin l'un de l'autre quand même en termes de vitesse. Wow. Ben, les autres, ils ont travaillé ça tellement, mm-hmm. encore bien plus que moi quand ils étaient jeunes, que ça leur donne tellement un avantage. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas vraiment. Ouais. Moi, j'habitais à l'île aux coudes, j'avais pas d'entraîneur, j'avais pas rien, je faisais ça un peu par moi-même. Puis c'était plus pour faire du chest bra que d'autres choses, on s'entend. Puis après ça, j'ai commencé à courir au niveau secondaire cross-country. Puis dans ce temps-là aussi, à l'île aux coudes, bon, il y avait des équipes de canot à glace. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à faire plus du long endurance, là, vraiment canot à glace. Là, pour quelqu'un de 16-17 ans, faire des courses de 1h30, 2h, 3h, des fois, c'est quand même c'est quand même long et intense. Là. Fait que j'ai commencé assez tôt à entrer
puis
dans l'endurance.
C'est
là.
Physique, là, du canot à glace. Là.
C'est physique dans le sens, tu sais, c'est musculaire, c'est justement, tu sais, il y a beaucoup d'endurance, de puissance, mais c'est physique dans le sens tu te fais brasser en crisse aussi. Mm-hmm, là, tu te fais ramasser par des glaces, là. Je dis dans le temps, ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être une vingtaine d'années déjà, mais...
Il y avait plus de glace. Là.
Il y avait quand même beaucoup plus de glace que dans les dernières années. Dans les cinq dernières années, il y en a peu des grosses tant que ça, quand j'ai commencé à 16 ans, là, des glaces de 6-7 pieds de haut sur le fleuve.
Surtout aller dans le coin de l'île aux
Grues. Oui, c'est ça. Il y en avait des souvent, puis les traversiers, souvent, ils rushent un peu parce qu'ils ont de la misère à passer. Mais bref, tu te fais brasser, puis être dans le milieu des glaces de 6-7 pieds là, que tu te faufiles, là, c'est quand même impressionnant là, justement, quand t'es jeune. Fait que j'ai fait plus de muscu, je te dirais, puis endurance, course, canot, jusqu'à, à l'université. Puis j'ai fait du cross-country au niveau collégial aussi. J'ai arrêté complètement le cross-country là, quand je suis arrivé à l'université. J'ai commencé à faire un peu plus de route.
Mm-hmm.
Puis jusqu'à la fin de l'université, j'ai continué à faire beaucoup, beaucoup de musculation. Mais c'était vraiment, tu sais, c'était pas dans l'optique nécessairement de m'améliorer dans le sport. Au contraire, ça me nuisait parce que, tu sais, là, tu me vois, là, j'avais 30 livres de muscles de plus à cet âge-là.
Ouais.
Tu sais, c'était vraiment juste plus pour parce que j'aimais ça, l'apparence et tout. Mm-hmm. On change dans la vie. Puis après ça, j'ai commencé à délaisser ça un peu, faire de la muscu un peu plus fonctionnelle, puis vraiment focusser sur l'endurance à partir de 24-25 ans, peut-être. 23-24-25 ans.
Puis là, t'as...
Là, j'ai 35 ans.
OK. OK.
35 ans. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à courir plus, perdre de la masse musculaire, mais tu sais, garder une masse musculaire qui est plus fonctionnelle au sport que je fais maintenant, qui est le ultra. Même qu'encore là, je suis quand même... Je suis pas costaud, pas du tout, mais je suis costaud pour un coureur d'ultra.
C'est ça. Moi, mettons, là, en natation, j'en ai tellement fait plus jeune, ton corps se moule.
Ouais, exactement.
Même,
t'es encore là, une chip de nageur.
Genre, moi, c'est une joke avec mon meilleur ami, c'est comme je pourrais faire n'importe quoi, puis je vais peser 180 livres.
Exactement.
Genre, je pourrais faire n'importe quoi. Là, comme là, je fais en ce moment, ça fait plusieurs mois que je suis à 100 km par semaine, puis tu sais, avec l'intensité, puis je fais attention à ce que je mange, puis tu sais, puis je perds pas de muscles du haut du corps. Ouais. Là,
ben, tu vois, c'est ça. C'est cette phase-là, pour les jeunes, c'est vraiment une phase où tu vas pas mouler ton corps, mais tu vas développer quand même ta masse musculaire, tes habiletés athlétiques, on va dire, pour le reste de ta vie. Surtout ce qui est puissance, agilité, etc.
Ouais.
L'endurance, ben, tu le vois, tu peux la développer plus tard dans ta vie.
Mm-hmm.
Mais si t'as pas développé ta vitesse quand t'es jeune,
ben, écoute,
quand t'arrives à 30 ans, c'est dur de
d'y aller.
Ouais, c'est ça, de battre tes temps de 20 ans.
Je veux, check, on m'a dit qu'avec toi, on allait être capable d'aller geek dans le sport, là, dans la science du sport, puis j'ai une question directe là pour toi parce que puis
je vais essayer de répondre à mon meilleur
scripté,
à chaque fois.
Ouais, je comprends.
Que ce soit
absolument. Mais moi, ce qu'on m'avait dit, parce que j'ai coaché du groupe d'âge, puis ce qu'on m'avait dit, puis en termes de créer une base, c'était que d'aller chercher justement les aptitudes d'explosivité puis de vitesse. En bas de 15 ans, c'était comme le meilleur moment pour le faire.
Ouais,
ça, c'est vrai?
Oui, ouais, absolument. Puis d'habileté motrice et tout, là, c'est vraiment là que tu vas développer de plus. Tu sais, au niveau neuro aussi, là, tes habiletés.
Fait que des affaires
là,
vraiment, tu sais, fast twitch. Là,
ouais, exactement.
Trucs...
Prise de décision rapide, tu sais, des changements de direction, des sprints courts, des trucs comme ça. C'est vraiment là que tu vas développer le plus d'habileté à faire ce genre de trucs-là. Puis après ça, ben, tu peux commencer à 18 ans et être très bon pareil.
Ouais, l'améliorer quand même.
Il y a une fenêtre, là, c'est sûr. Là. Mais c'est sûr que si tu développes ça quand tu es très jeune, t'as déjà un grand avantage sur tout le monde qui l'ont pas fait. Là.
C'est bizarre parce qu'on dirait que quand on... Puis là, je parle avec mon background de natation, puis je peux pas parler pour les autres sports parce que je les connais pas. Je sais pas comment ça fonctionne au niveau groupe d'âge dans d'autres sports. Mais nous, la mentalité était de... Là, on va faire du ultra général, endurance générale quand on est jeune, puis on va spécifier... Quand on est plus vieux. Moi, j'ai pas fait d'explosion puis de vrais sprints, là, t'sais, des efforts de. T'sais, mettons, le 50, il durait 22 secondes. Fait qu'en entraînement, de faire des 8, des 10 secondes, des affaires vraiment explosives, j'ai pas fait ça avant d'avoir 26 ans. Là, t'sais.
Mm-hmm.
Alors que de ce qui semble être. De ce qu'on vient de dire là, de ce que je m'étais déjà fait dire, c'est avant qu'il faut que ça se fasse puis que l'endurance peut venir après. T'sais.
Exactement. Si tu veux développer des qualités de. Tu peux toujours. les développer plus tard. Il n'y a rien d'impossible. Même que plus tu vieillis, plus tu devrais focusser sur ces aspects-là, ouais, parce que c'est ça que tu vas perdre le plus. Mais c'est sûr que la bonne plage de développement va être beaucoup plus jeune. Fait que si tu veux développer un athlète qui est très explosif, même pour les sports d'endurance, c'est très bénéfique.
Ben oui, mais ça, l'UTMB, les gars, ils partent à 3.30 sur le plat. Là, je suis capable de le faire.
Justement, tu as reçu Guillaume la semaine passée. Pas la semaine passée, mais
au dernier podcast.
Il y a quelques semaines, puis c'est le parfait exemple entre moi puis lui. Moi, j'ai pas travaillé ça. Puis moi, ça m'a pris, tu sais, mettons sur demi-marathon, marathon, ça m'a pris 5, 6, 7 ans avant de maximiser, entre guillemets, mes capacités. Lui, il est arrivé avec son background athlétique, de vitesse, de puissance, de tout ça.
De biomécanique.
Il a travaillé son endurance pendant un an et demi, deux ans. Puis là, il me bat. T'sais, il est rendu meilleur que moi-même. Mais pourtant, moi, mon endurance, je la travaille depuis très, très longtemps. Là. Puis là, je te parle, mettons, sur marathon, après ça, bon, sur 160 km, c'est un autre game. Là.
Ouais.
Mais tu sais, c'est quand même impressionnant ce que des gens qui travaillent, justement, ces aspects-là, jeunes jusqu'à la début vingtaine, sont capables de faire après en endurance. Je te dis pas que ça serait le cas de toute la population là, qui font ce genre de processus-là, mais je dirais que dans la majorité, c'est sûr que ça va t'aider. Là. Ça peut pas te nuire. Puis tu sais, pour des jeunes, de spécialiser trop vite dans l'endurance, ça peut peut-être leur nuire à long terme, dans le sens que, tu sais, faire du soccer, du vélo de montagne, je sais pas, de la natation un peu, puis un autre sport, quand t'es jeune, tu sais, de varier beaucoup au niveau neuromusculaire, apprentissage, tu sais, au niveau formation justement de tes tissus, de tes muscles, de tes tendons, de juste tes habiletés motrices générales, c'est beaucoup plus bénéfique que de faire un sport qui t'amène dans un plan comme la course à pied qui est très linéaire dans ce plan-là, puis qui va toujours te mettre dans ce plan-là, puis que dès que tu vas être exposé à un autre environnement, tu vas être obligé de débarquer du trottoir. Ben, tu vas te foulacher parce que c'est dans un autre
plan
que d'aller tout droit.
Ouais, exact, exact.
Fait que c'est juste des petites qualités qu'une moment donné, c'est pas obligé d'être excessif, mais de faire un peu d'autres choses. Que c'est correct de vouloir mettre un peu d'accent sur certains aspects pour un jeune que, bon, il a un bon talent en course à pied, fait qu'on va le faire courir plus, mais de faire d'autres choses, d'autres habiletés motrices qui sont totalement pas connexes à son sport pour commencer quand il est jeune, c'est vraiment important.
Ah ouais. Le nombre de nageurs, moi inclus, que je connais, qui sont pas capables de botter un ballon. Tu sais, quand le ballon arrive, puis genre, moi, je joue un peu au hockey, fait que la coordination, mettons, mains, pieds, yeux, je l'ai quand même un petit peu plus que les autres nageurs, mettons, là, mais des fois, on faisait des activités hors piscine, puis c'était d'un pathétisme là, quasiment, parce qu'on a toute la gang, tu sais, depuis qu'on a 12 ans, on nage 8 fois par semaine, tu sais, juste de la natation.
Exactement, tu sais, je porte aucun jugement sur les nageurs, je les aime beaucoup, mais maintenant je vois des athlètes de natation entrer dans le gym, je sais tout de suite
que c'est ça,
des athlètes de natation, juste savoir leur bas du corps, juste savoir leur habileté, principalement du bas du corps dans le gym, je dirais, tu sais, haut du corps, j'ai rien à dire, là, c'est vraiment très développé, mais tout ce qui bas du corps, tu le vois un petit peu plus que, tu sais, oups, c'est peut-être une petite lacune qu'il y a à ce niveau-là. Ils sont moins habitués à mettre du poids sur les jambes. Puis, tu sais, je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est quand même quelque chose qui est important.
Qu'on fait,
en général.
Puis, cool, fait que là, fermons la parenthèse sur le développement des jeunes, mais je trouve que c'est super intéressant parce que, en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui, non seulement, peut-être auraient une meilleure carrière mais auraient surtout plus de fun en diversifiant leur pratique plus jeune.
Tu sais, pour avoir voyagé beaucoup pour le travail, avoir été beaucoup dans les pays nordiques comme la Norvège, la Suède, ben c'est des pratiques qui vont mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'avant avec les jeunes, de pratiquer 2 à 3 sports différents qui nécessitent des qualités motrices différentes, des qualités endurance puissante différentes. Puis ils mettent beaucoup d'accent là-dessus pour former les meilleurs humains en santé, mais aussi former les meilleurs athlètes. Tu vas dans des pays comme ça, mettons en Norvège, on 7-8 millions, 8 millions de gens font du sport, puis 8 millions de gens ont fait 2-3 sports quand ils étaient jeunes, puis continuent à faire du sport plus tard dans leur vie. Fait que c'est sûr que si ton bassin est
si on prend la Norvège, qu'on dit qu'ils ont la même population qu'au Québec, si on avait le Québec contre la Norvège dans des Jeux olympiques, on se ferait... on se ferait démolir. Là.
Je dirais dévisser pour
à pratiquement tous les sports. Là,
peut-être pas au hockey, mais
peut-être pas au hockey, ouais, peut-être pas au hockey, effectivement.
Ouais, le hockey, on serait quand même une force. Mais ouais. Encore là, c'est un bel exemple, le hockey, parce qu'on est bon au hockey, on a des bons systèmes de développement. Je pense que peut-être dans les dernières années, on l'a peut-être échappé un peu là-dessus. Mais au hockey, c'est notre bassin de joueurs qui sait qu'on est bon.
C'est
beaucoup,
ça, ouais, ouais.
Contrairement à la Norvège, tu sais que le hockey, c'est un sport qui est un petit peu moins populaire. Mm-hmm. Mais si on mettrait des Olympiques, Québec versus Norvège, c'est sûr que ça serait pas drôle. Oh, c'est pas sûr qu'on serait capable d'aller chercher une médaille outre le hockey, par exemple. C'est sûr.
Puis j'avais une conversation, je parlais avec Pierre Lavoie, je l'ai rencontré cet été, puis on parlait, c'était un ancien ami, un ami de la famille. De way back quand j'étais petit gars, puis là on s'est recroisé puis on a discuté, puis lui de pratiquer plusieurs sports, puis évidemment lui prêche pour le triathlon, c'est son sport de prédilection, mais le triathlon c'est un bon exemple de comme tu développes plusieurs skills en même temps, t'entraînant pour un seul sport dans le fond. Puis lui il parle beaucoup, tu sais, justement de la diversification des pratiques sportives pour être capable de garder une population en santé longtemps. Parce qu'il dit, si tu
spécifies
si tu spécifies trop vite tes athlètes, ils vont arrêter. Puis quand ça va être fini, beaucoup de nageurs que je connais qui ont toute leur vie, ils arrivent à 25 ans, la carrière est finie, ils arrêtent plus de sport, là, zéro sport. Là, fait que,
Je pense que je suis certain que M. Lavoie serait d'accord avec moi. C'est important aussi d'avoir un sport qui est peut-être un petit peu plus funky, puis tu sais, la natation rentre même pas là-dedans, là. Mais tu sais, mettons, si t'aimes ça, jouer au hockey. C'est bien beau jouer au hockey, mais combien de fois par semaine, réellement, tu peux jouer au hockey de façon accessible, facile, dans ta semaine? C'est quoi, c'est une fois, deux fois?
Max, Puis c'est dans une ligue, une pratique plus une game, mettons.
Je suis désolé, mais une fois, deux fois par semaine, c'est pas comme ça que tu développes des humains en santé.
Ouais, c'est
fait ça. Je pense que c'est important que, justement, peut-être en étant jeune ou même plus tard dans la vie, que les gens aient un autre sport qu'ils sont capables de pratiquer de façon quotidienne, facilement. Mm-hmm. Que ce soit un vélo stationnaire que tu as à la maison ou juste aller marcher ou juste mettre tes souliers pour aller courir 20 minutes, puis que tu joues au hockey en plus. Je pense que ça aussi c'est important de pas avoir juste un sport puis de pas écœurer le monde avec juste un sport comme tu disais tantôt que moi aussi j'en connais plein d'athlètes qui ont fini leur carrière, ils faisaient je sais pas X sport de combat ou un autre sport X de raquette, puis ils l'ont tellement fait qu'ils n'ont juste plus le goût, puis finalement ils perdent leurs bonnes habitudes de sport parce qu'ils sont juste saturés mentalement, puis ils sont plus capables de le faire, puis ils n'ont aucune autre option, qu'ils se sont fait enseigner parce qu'ils se sont tellement fait spécialiser jeunes qu'ils n'ont plus d'options. T'sais, c'était ça leur sport, mais là, mettons, je fais du judo, ça m'a, je dis pas que le judo brise le corps en général, mais ça m'a fait mal, ça m'a brisé un peu. Je vais backer un peu de ça, mais j'ai jamais rien fait d'autre, fait que je vais m'asseoir sur mon divan, puis je vais regarder la TV.
Exact. Ouais. Fait que depuis que t'es tout petit, que tu t'intéresses à l'entraînement, livres que tu me parlais.
Exactement.
Puis quand est-ce que tu décides de coacher, de faire là, je vais transmettre ce savoir-là que j'ai acquis, parce que là, tu rentres à l'université en kin.
Ouais, exactement.
Okay. Puis avant de rentrer à l'université, est-ce que tu coachais déjà? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'intéressait? Ou...
Ça m'intéressait, mais tu sais, comme tout...
Puis étant donné que tu n'avais pas nécessairement de sport précis, c'est comme comment est-ce que tu transmets ce savoir-là?
Moi, c'est ça, je te dirais que, mettons, j'avais la belle pensée que je voulais aller en médecine, comme, tu sais, j'avais de la facilité à l'école. Ouais. Puis bon,
j'aime ça le corps humain.
Je voulais faire la médecine. Puis là, bon, tu sais, mes notes au cégep étaient bonnes. Mais tu sais, j'ai eu plusieurs rencontres avec des médecins. J'ai fait des stages d'observation. Puis tout, je me suis rendu compte qu'en leur parlant, justement, tu sais, c'était peut-être pas la meilleure profession pour avoir une qualité de vie qui me permet de faire énormément de sport. Parce que moi, j'aime ça faire du sport. Ouais. C'est une maladie un peu.
Mm-hmm. C'est sûr que quand tu te gardes les fins de semaine, tu passes des nuits blanches à l'hôpital. C'est moins.
Tu sais, je me suis dit, bon, puis là, honnêtement, je suis pas rentré en kin par hasard, mais c'est un des programmes qui m'intéressait, physio-kin. Finalement, je suis rentré en kinésiologie, j'ai commencé avec ça. Puis, comme beaucoup de kinésiologues disent, je vais changer après un an. Puis finalement, j'ai vraiment trippé, j'ai adoré la kinésiologie. Je me suis vraiment reconnu là-dedans. Puis après ça, ben, je te dirais que la suite, c'est un peu un fil roulant. Pas de hasard, mais de belles opportunités qui se sont arrivées. Fait que j'ai fait mon bac. J'ai eu des stages très intéressants en ski de fond, justement, en taekwondo. Les entraîneurs m'ont adoré. Puis en plus, la préparatrice physique était là à ce moment-là, a décidé de quitter à la fin de mon stage. Ils m'ont offert les postes. C'était deux gros centres. C'était un centre national de taekwondo, le centre Pierre-Harvey en ski de fond, justement. Ils m'ont offert cette opportunité-là. Ils disent, on sait qu'on est jeune, mais on va te former, on va t'aider dans le processus. Puis c'est, mettons, justement, j'ai travaillé beaucoup avec Alex, puis moi puis Alex, on avait la même âge, là, à un mois de différence ou deux, là. Fait qu'on a grandi un peu là-dedans. Là.
Ouais.
Puis je te dirais que c'est venu un peu sur le tas comme ça. J'ai pris les postes, j'ai commencé à faire de la préparation. Tu sais, je me suis entraîné dans le gym toute ma vie, je connaissais les principes, j'adorais ça. Je voulais vraiment faire ça de ma vie. Est-ce que je voulais travailler en spécialement avec le ski de fond, au départ, je te dirais absolument pas.
Parce que t'as pas de connaissances.
C'est
de ski
ça, c'est arrivé dans ma vie. Honnêtement, avant de travailler avec le Centre national, j'avais fait 10 fois du classique dans ma vie à regarder les oiseaux dans le bois. Là, c'était pas mal ça. Là, fait que là, j'ai commencé à travailler avec eux. En un an, je suis devenu pas un excellent skieur, mais un très bon skieur, on va dire. Je suis pas excellent parce que je me compare à eux, puis je suis pas un excellent, on va dire.
Tu compares ton meilleur de l'histoire, là.
Exactement.
J'étais pas très bon.
Fait que, tu sais, j'ai fait ça un an ou deux, j'ai fait ma maîtrise avec eux, un peu en biomécanique, en analyse des comment on optimise la performance des skieurs. Tu sais, on leur mettait des GPS sur le dos, on quantifiait chaque point, chaque détail qu'on pouvait aller chercher avec eux. On essayait d'aller le chercher au niveau technique, au niveau de la glisse, au niveau de. C'était vraiment des GPS de très haute résolution, fait qu'on pouvait voir beaucoup de choses avec ça. Puis ça m'a permis de décortiquer beaucoup la technique aussi de ce qu'ils font. Puis après ma maîtrise, les coachs m'ont dit, garde, si tu veux, il y a un poste cyber, on te l'offre. Je pense que tu es rendu à un point que tu as assez analysé, tu as assez décortiqué mécaniquement.
Ta maîtrise, est-ce que tu l'as fait sur ça?
Oui, exactement. Okay. Exactement. Ouais. Pour te donner un poste de coach en tant que tel. Puis si tu veux pas en kin, tu apprends beaucoup la physiologie de l'exercice.
Ouais.
Puis, tu sais, ce que tu apprends dans les livres, c'est beau, mais là, ça faisait au moins 2 ans que je faisais la préparation physique avec eux, 2-3 ans. Puis que j'étais, mettons, avec Louis Bouchard, c'est un bon ami à moi maintenant, qui est un entraîneur, qui était l'entraîneur d'Alex. Puis lui, il me montrait les méthodes terrain beaucoup, puis comment lui, c'était quoi sa vision de la planification, puis la physiologie. Puis en mélangeant les deux, ben, c'est ça m'a vraiment éveillé à ça. Puis ils m'ont offert un poste, puis j'ai sauté là-dedans. À temps plein pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, je te dirais. Là. Fait que ça a été ça, ma carrière là, avec le ski pendant un bon 10 ans, je te dirais. Là,
ah ouais. Ensuite, là. Le ski de fond, c'est... Moi, mettons, dans ma conception, quand je faisais de la natation, même encore aujourd'hui, il y avait seulement certains sports qui, dans ma tête, s'approchaient de ce que la natation pouvait être, mettons. Là, tu sais, où est-ce que t'es à la fois dans ton VO2 max à côté, mais avec l'acide lactique rempli dans le corps au complet. Tu sais, genre, pas beaucoup de sports qui se rendent dans ces zones, dans ces deux zones-là simultanément.
Ouais, ouais.
Puis moi, il y avait la natation, il y avait le patin de vitesse longue piste. Il y avait le rowing.
Le rowing, oui.
Puis le ski de fond. C'était comme les 4 sports que je voyais. Que, OK, ça, c'est pas mal la même zone.
Ouais.
Mais de savoir que toi, tu t'es fait offrir ce poste-là, mettons, en connaissant pas le ski de fond, ça en dit quand même long sur comment le corps est pareil. Peu importe ton sport. Oh, là,
ouais, exactement. La physiologie.
Ça prend un coach qui a fait le sport pour connaître la technique, mettons.
Ouais, exact.
Niveau technique. Natation aussi, c'est un sport qui est ultra technique. Il faut que la personne en ait fait. Il faut qu'elle sache c'est quoi.
Ce que Louis m'apportait beaucoup.
Exact. Sauf que le corps, c'est le corps. Là.
C'est ça.
Puis un effort de 4 minutes à bloc, c'est un effort de 4 minutes à bloc, que tu sois dans l'eau, ça neige, ça glace, ça route, dans le trail, c'est la même chose, tu sais.
Fait que ta planification va quand même se ressembler, tu sais, t'as des petites spécificités que tu vas aller chercher de sport à un autre. Mettons, toi, tu nages, là, tu fais un 4 minutes à la natation, t'as pas de break, là.
Ouais.
la réalité. Puis là, tu en parlais beaucoup avec David, justement, tu sais, le seuil et tout,
ouais, ouais,
pas trop aller au-dessus. Mais tu sais, en ski, c'est ça la réalité, c'est que tu as des zones de récupération, ouais, tu as des descentes que tu récupères. Bon, tu loads tes jambes un peu en descente, si tu descends bien et vite, mais tu as quand même des moments de récupération, des moments d'intensité plus élevée. Tu sais, un parcours de ski de fond, c'est un tiers montée, un tiers descente, un tiers plat. Fait que, tu sais, les montées, souvent, tu vas aller au-dessus de ce seuil-là, tu vas redescendre un peu. Sur les plats, on peut dire que tu es à seuil, dépendamment des distances que tu fais. Ouais. Fait que là, c'est un peu la variété que le ski de fond a. Fait que tu peux te permettre, puis ça t'oblige à repenser ta planification.
Selon le parcours.
Selon les parcours, selon l'exigence du sport brut.
Ouais.
Mais c'est sûr que quand mettons, tu fais un bac en kinésiologie, ben à la base, notre job, quand tu travailles avec de l'élite, c'est de l'analyse de tâches qu'on appelle. Fait que c'est de prendre le sport, décortiquer les filières énergétiques, on va dire. Là, qu'est-ce que tu as besoin de travailler au niveau VO2 max, endurance de base, puissance à lactique, etc. Ouais. Puis après ça, ben regardez, c'est quoi le geste sportif en tant que tel? C'est-tu bon nager, ramer, c'est quoi les muscles que ça implique? Puis là, ben, prévoir ta préparation physique et ta planification des filières en fonction de tes gestes sportifs. Quand tu as ce bac-là, normalement, tu es capable de travailler avec pas mal tous les sports. Puis ensuite, ben, comme tu dis, ben, les aspects techniques, il y a les aspects terrain. Parce que la théorie, c'est beau. Puis ça, c'est ce que j'ai... Parce que, pour être honnête, quand tu es un jeune coach, tu sors de l'école, puis là, tu penses que tu connais tout. Puis là, tu as tout vu. Puis, tu sais, j'étais pas comme ça, j'étais pas cocky, mais tu sais, je pensais que je connaissais tout. Puis quand tu fais du terrain, puis là, tu rentres sur le terrain, puis là, tu l'essayes pendant un an, puis là, tu fais, ben voyons, ça marche pas, ça a pas marché ma méthode. Pourtant, dans le livre, c'était écrit ça, là. Mais là, c'est parce que c'est un humain qui est devant toi, là. C'est un humain qui réagit peut-être pas de la même façon que le livre va dire, qui va réagir. Fait que là, c'est là que le terrain, l'expérience des coachs plus âgés qui ont plus d'expérience rentrent en ligne de compte, qui est importante dans le processus pour te dire, ouais, mais tu sais, ce que tu as vu dans le livre, lui, donne-lui un jour de repos de plus, parce que tu vas voir que sinon, sa course, ça va pas bien aller. Puis tu t'estimes à le faire, puis là, boum, il y a un mauvais résultat, puis là, t'es comme, wow, OK, c'est... finalement, il y a beaucoup plus de terrain que je pensais aussi. Je te dirais que c'est 50-50 ou 60% théorie, 40% terrain, mais il faut quand même que la base scientifique soit la prédominante de ta planification.
Ouais.
Parce que sinon, pour moi, ben, c'est la planification elle a plus ou moins de valeur, là. Mais il faut que tu te bases sur des données, sur des études, sur qu'est-ce qui se fait dans la littérature pour voir comment je vais bâtir mon plan d'entraînement. Puis après ça, ben, tu l'adaptes aux humains que tu as devant toi. Puis ça, c'est vraiment important. Parce que là, tu as l'aspect émotionnel, nutritionnel. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Là,
est-ce que le ski de fond, c'est un sport qui est... moi, c'est l'impression que j'en avais, qui est quand même en avance sur plusieurs sports en termes de d'utilisation de la science du sport pour maximiser les performances.
Peut-être un petit peu en avance maintenant.
Ouais.
Moi, quand je suis rentré, je te dirais que c'était pas si en avance que ça. Mais je te dirais que dans les 10-15 dernières années, ça a énormément évolué, absolument, là. En termes de planification, justement, t'en parlais avec David, c'est établir les ondes de façon très, très, pas mathématique, là, mais scientifique. Les prises de lactate, au niveau de la préparation physique, introduire beaucoup plus la force maximale, puis aller chercher des exercices qui vont te faire travailler d'autres aspects que lever 15 fois une charge qui va travailler la même chose finalement que tu avais.
Mais ça, c'est un des points, justement, ceux qui écoutent, là, qui ne savent pas à quoi on fait référence quand on dit David, c'est le podcast avec David Yecker, vous pouvez aller l'écouter, là, on parle un petit peu de toutes ces choses-là. Mais ce que David disait dans ça, puis j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus, c'était que sur les sports d'endurance, puis c'est ceux qui écoutent le podcast, c'est principalement des gens qui pratiquent des sports d'endurance, là, tes travails, ton endurance musculaire en pratiquant même ton sport. Fait que quand tu es au gym, de pratiquer ton endurance musculaire, c'est un peu de faire la même chose que tu faisais.
Ben, je te dirais que tu sais, l'aspect négatif de l'endurance, entre guillemets, c'est que ça endort un peu tes muscles. Puis là, je vais vulgariser assez, là, c'est que tu vas vraiment pas te désactiver, mais tu maximises vraiment pas le nombre de fibres, d'unités motrices dans ton muscle. Tu vas peut-être finalement utiliser 30-40% de la capacité de ton muscle parce que tu vas toujours rester dans un environnement qui te demande une sollicitation neuromusculaire qui est faible, mm-hmm. on va dire, entre guillemets. Le ski de fond, bon, comme je te disais, il y a des sprints, il y a des descentes un petit peu différentes, mais mettons, si tu fais un marathon, par exemple. Fait que là, si tu veux essayer d'augmenter ta vitesse brute pour augmenter tes temps, diminuer tes temps sur marathon, mais il faut que tu ailles maximiser ton muscle. Il n'y a pas juste la physiologie, la puissance aérobie maximale, l'endurance de base qui est importante. Le muscle fait partie de la physiologie aussi. Là. C'est deux choses qui sont intégrées. Puis si ton muscle il est juste habitué de faire des petites contractions faciles pendant des heures, ben, c'est pas en lui demandant une fois de sprinter qu'il va être capable de le faire. Mm-hmm. La force maximale, ça va t'amener à aller au niveau neuromusculaire, justement solliciter un peu plus de fibres, un peu plus d'unité motrice à chaque fois. Puis finalement, ben, c'est une mémoire musculaire, ton cerveau se rappelle, entre guillemets, qu'il est capable d'aller recruter ces fibres-là. Donc, quand tu veux vouloir augmenter ta vitesse, faire des 400 plus vite, ben là, tu vas être capable d'aller solliciter un maximum d'unités motrices, d'être capable de produire plus de puissance, contrairement à si tu fais juste répéter un geste pendant des répétitions, mm-hmm. Ou faire de la zone 1, comme David le disait. Fait que c'est super important d'aller solliciter cet aspect-là qui n'est pas sollicité sinon à la course à pied, on va dire, quand tu fais des longues distances, etc. Ouais. Fait que c'est vraiment de maximiser, je te dirais, l'efficacité de ton muscle à répondre à si tu veux monter une côte plus vite, si tu veux faire un sprint, si tu veux faire une attaque à la fin pour dépasser l'autre qui est en avant de toi. C'est cette capacité-là que tu veux aller chercher. Puis aussi au niveau de l'économie de course, parce que quand tu travailles en force maximale, tu améliores cette connexion-là entre ton cerveau et tes muscles. Donc, théoriquement, ça peut améliorer, ça diminue la quantité d'énergie que tu as besoin à chaque foulée. Mm-hmm. Tu vas être capable de, mais mettons, tu dépenses 3 calories par foulée, mais là, tu vas en dépenser 2,5. Mm-hmm. Parce que tu as amélioré cette connexion-là. Tu as besoin de moins d'énergie au niveau aussi du brain juice là, pour faire ce pas-là. Donc, éventuellement, tu économises du travail. Donc, à la fin...
Sur des épreuves d'endurance, parce qu'ils durent super longtemps, petite virgule est accumulée.
Donc, à la fin, ben, le point 5 que tu as économisé, ben, ça te fait que tu es capable d'aller bien plus vite, plus longtemps. Là,
mm-hmm. Puis, quand on regarde, mettons... tu sais, moi, je suis beaucoup Lionel Sanders, là, le triathlète canadien. Puis lui, il s'intéresse à ce que les Norvégiens font. Puis en ce moment, les Norvégiens en triathlon, puis en ski de fond aussi, je pense. C'est vraiment une domination complète, là, tu sais. Mais eux, ils semblent pas faire de gym, vraiment.
Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que il y a beaucoup de très bons skieurs qui en font pas. Puis il y a beaucoup de très bons skieurs qui en font. Il y a beaucoup de très bons triathlètes qui en font pas, puis il y en a qui le font. Je pense, tu sais, ma question aux gens, c'est toujours s'ils en faisaient, ils seraient-tu meilleurs? C'est pas parce que c'est meilleur présentement, puis qu'il en fait pas, que c'est la bonne chose à faire. S'il ajoutait ça à sa planification, est-ce qu'il serait meilleur? Moi, j'ai toujours l'impression que oui, parce que la littérature nous dit que oui. Si tu le fais de la mauvaise façon, c'est sûr que ça peut te nuire. Si tu le fais de la bonne façon, que c'est bien intégré dans ton plan, ça peut pas te nuire, c'est sûr. Mm-hmm. Au pire, tu n'auras pas beaucoup d'amélioration.
Au pire, ce sera even. Là.
Exactement. Ouais. Mais au pire, tu auras essayé. Rendu à ce niveau-là, comme tu le dis, chaque virgule, chaque 0.01 est important.
Les épreuves de 7 heures, quand même.
C'est ça. Fait que si tu n'essayes pas d'aller chercher ça, ben, à un moment donné, c'est bien beau ton VO2 max, mais c'est pas vrai que c'est ton VO2 max qui va faire la différence à la fin sur une épreuve de 7 heures. Tu sais, le gars qui a 85 ou 90 de VO2 max, ils vont arriver pas mal even pareil. Fait que c'est dans d'autres aspects que tu vas aller chercher maximiser. Mm-hmm. Tu sais, mettons, justement, je parle d'Alex parce que j'ai travaillé beaucoup avec, mais c'était pas lui qui avait le plus gros VO2 max. Mais il faisait beaucoup de musculation, justement, beaucoup de développement de puissance, force maximale. En quelques années, il est devenu un des meilleurs sprinteurs au monde, ce qui n'était pas du tout avant. Puis, il était très, très fort techniquement. Fait que tu avais des gars de 90, 92 de VO2 max qui étaient à côté de lui, mais lui, il en avait un peu moins, mais il battait pareil.
92, c'est tellement débile.
Parce qu'il skiait un peu de croche, puis parce qu'il ne maximisait pas... C'est cette musculation. Si ces gars-là avaient fait ça, est-ce qu'ils auraient été meilleurs?
C'est ça.
Probablement, mais peut-être qu'ils mettaient leurs œufs trop dans le développement.
Est-ce que ça aurait été possible d'avoir un VO2 max de 90-92 en en allant travailler d'autres choses pendant ton training, amener combien il y a de temps d'entraînement dans une semaine? Là?
C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, des athlètes là, de ce niveau-là, mettons, tu prends un très bon skieur présentement, comme Klebo, par exemple, sur des meilleurs Norvégiens, il doit faire 1200 heures par année. Là,
ouais, c'est ça.
Bon, si sa muscu n'est pas intégrée là-dedans déjà, ça va être dur, là, c'est sûr et certain.
Ouais.
Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu le fasses tôt dans ta vie pour que ça soit intégré dans ta planification. Mm-hmm. Mais il y a toujours moyen, d'après moi, de l'insérer de façon intelligente. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que Klebo, il est bon présentement, il est jeune encore. Quand il va arriver à 32 ans puis qu'il sera plus capable de monter à côte comme il monte présentement, peut-être que ça va être bon maintenant de couper mm-hmm. 2 heures de zone 1 puis de mettre de la musculation à la place là, pour ouais. Combler cette petite perte de puissance là, que tu as eue.
Ouais.
C'est jamais trop tard pour le faire. C'est juste qu'il faut bien que tu le fasses. Faut pas que tu le fasses. Si, mettons, ta semaine est déjà pactée, ben il faut pas que tu en rajoutes 2-3 séances en plus mm-hmm. de ça. Puis si ton athlète est déjà un peu fatigué avec la planif que tu lui donnes, ben c'est pas en y mettant 3 séances de force max que tu vas le reposer plus.
Non, c'est ça, exact. Ouais. Exact.
C'est toujours un bon mitoyen entre le développement des qualités puis le repos qu'on va offrir à l'athlète. Là. Puis il y a des moments où on veut qu'il soit fatigué, il y a des moments où on veut qu'il soit fresh. Ça, c'est une autre question aussi.
Ouais. Puis. Les gens qui écoutent le podcast, c'est pour la plupart des gens qui, comme je disais tantôt, pratiquent des sports d'endurance, mais qui prennent ça, somme toute, au sérieux, au point où est-ce qu'ils écoutent une heure de conversation geek de sport à chaque 2 semaines, ouais. mettons. Mais en même temps, très peu de gens qui nous écoutent sont élites. Il y en a, là, tu sais, je les salue d'ailleurs. Bon, là, oui. Très peu de gens, la plupart des gens sont comme moi, mettons, en disant hey, moi, je mets du temps, je m'entraîne à tous les jours, plusieurs heures des fois par jour, puis pour essayer d'atteindre des objectifs. Mais mm-hmm. mon horaire n'est pas saturé. Je ne suis pas à 20 heures par semaine, à plus être capable, tu sais, à tout mettre ça dans le sport. Fait que pour quelqu'un qui nous écoute comme ça, un entraînement en force, en gym, mettons. Parce que là, prenons quelqu'un qui fait du triathlon dans nos auditeurs, là.
Ouais.
Qui veut mettre un training en gym. Mais peut-être que triathlon, c'est plus difficile parce que c'est quand même spécifique de prenons une course à pied parce que c'est vraiment le plus simple. Là, tu sais. Quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon, qui veut introduire des séances de force max, c'est quand le meilleur moment de le faire dans une semaine? Tu sais, parce que je sais que pour que ça soit spécifique, là, si je dis n'importe quoi, évidemment, tu me corriges, là. Pour que ce soit bon de le faire, que tu sois maximal, puis que faut pas que tu arrives là fatigué pour être capable de vraiment aller en force max. Mais après ça, si tu fais un training d'intensité après, ça vient peut-être
contrecarrer
un petit peu ce que tu viens de faire. Fait que ce serait quoi, mettons, ceux qui nous écoutent qui disent hey, j'aimerais ça peut-être placer 2 entraînements en force max dans ma semaine. Ce serait quand le meilleur moment pour les mettre?
Ouais, puis tu sais, c'est. Puis encore, t'es dans la semaine, puis t'as dans l'année, entre guillemets, c'est quand que tu devrais le faire. Parce que c'est des méthodes qui sont drainantes au niveau énergétique. Fait que tu sais, mettons, on prend une semaine régulière, puis tu sais, peu importe si on fait de la force max ou d'autres méthodes. Tu sais, ça va rester un peu la même chose. C'est sûr que ça dépend de ta priorité. Commençons avec les phases, ça va être plus facile. Fait que maintenant, tu es en off-season, tu recommences tranquillement.
Ouais.
Là, c'est sûr que ta priorité, c'est pas d'aller faire 16 fois 400 ça pisse. On s'entend. Ouais. Tu sais, il te reste 24 semaines avant ton événement, 30 semaines avant ton événement, peu importe. Ouais. Là, c'est un bon moment pour mettre prioritaire tes entraînements au gym. Puis là, c'est sûr qu'en commençant, je recommande à la personne de faire du 4 répétitions maximales. Mm-hmm. Puis répétition maximale, on parle là de, mettons, je fais un squat, puis ma 4e rep, je suis pas capable d'en faire 5. Mm-hmm. C'est vraiment... je suis à bloc, là. Exactement. Fait que, tu sais, comme en endurance, on commence mollo, ben en muscu, c'est un petit peu le même principe. T'sais, tu veux adapter tes tissus et tout, tu veux adapter tes tendons, tes ligaments même, t'sais, tu veux favoriser un bon travail de tes stabilisateurs en premier pour être sûr que les gros muscles fassent pas toujours juste le travail puis que tes hanches soient stables, tes épaules soient stables. Fait que, tu sais, ça te prend 2-3 semaines de retour à l'entraînement que tu vas être plus mollo dans le gym. Puis une fois que tes fondations sont bien faites, là, on va pouvoir commencer justement à loader un peu plus. Puis je te dirais que jusqu'à 12 semaines avant ton événement, si la muscu est un petit peu plus prioritaire que les intensités, ben ce que je ferais moi personnellement, c'est que j'aurais pas de problème à mettre un entraînement de muscu avant un entraînement d'intensité. Fait que mettons le lundi, je mettrais ma muscu, mm-hmm. puis le mardi ou mercredi, j'irais faire mes intensités. Après ça, le vendredi, je pourrais faire un autre muscu, puis le samedi, des intensités. Si mes intensités sont pas de niveau très, très élevé, tu sais, on parle de tempo. Puis encore là, ben, si t'es tôt dans ta saison, c'est rare que tu vas le faire 12 fois 400 à bloc. Puis là, ben, plus ta saison avance, mais là, ça, la logique s'inverse un peu. Donc, la force maximale devient un peu secondaire dans le plan. Fait que, mettons, je suis rendu 12 semaines avant mon événement. Ben là, c'est sûr que je veux prioriser plus mon intensité. Je veux être fresh. Je veux développer d'autres choses avec mon intensité. Donc, je vais me prioriser tout le temps un peu plus mon intensité. Puis la musculation va devenir la séance. Ou si, même si je suis un petit peu fatigué, ben, c'est pas grave. J'ai fait des bons acquis avant. Donc, je vais sacrifier un peu ça. Donc, par exemple, je préfère lundi intensité, mardi musculation, même si je suis un petit peu fatigué de mes intensités la veille. Puis après ça, tu continues dans ce cycle-là. Tu pourrais faire une autre intensité le jeudi, vendredi ma muscu, puis après ça, ma longue le samedi, etc. Ouais. Fait que plus tu t'approches de ton événement, puis tu veux mettre tes priorités à la bonne place, entre guillemets, puis là, mettre tes intensités fresh le plus possible, puis ta muscu un peu fatiguée. Puis quand tu es en début de saison, ben, tu inverses un peu la logique. Fait que si tu fais ton tempo après le lendemain d'une muscu, ben, peut-être que tu vas te sentir un petit peu lourd, mais tu sais, c'est normal parce que c'est pas ta priorité présentement. Ta priorité, c'est d'avoir des bonnes fondations, de développer ta puissance, ta force, etc. dans cette période-ci. Puis en plus, si tu fais ça, ben, quand tu vas faire ton 12 fois 400, 12 semaines avant ton événement, ben, tu vas être bien plus explosif déjà parce que c'est des qualités que tu as développées, mais pas à la course à pied, autrement, dans le gym. Ouais. Donc, tes tendons vont être bien plus solides, t'as moins de chances de te blesser parce que t'as mis du load déjà dessus sur tes mollets, sur tes quads, etc. Puis, ben, les qualités que t'as développées en force maximale, en saut, en pliométrie, ben là, t'es transféré directement sur ton 400 mètres que tu fais à bloc. Tu sais, ça dépend de la phase d'entraînement, mais je te dirais, en début de saison, de prioriser la muscu puis d'arriver un peu fatigué pour ta course, c'est pas grave. Puis t'inverses cette logique-là après, plus t'approches de ton événement. Puis là, à un moment donné, ben, si tu t'en vas faire un demi-marathon, un marathon, ben c'est pas grave si t'arrêtes deux semaines avant ta musculation, même si c'est un bon taper, je te dirais. Ouais. Je te dirais quand même arrêter trois semaines avant, c'est quand même assez bien. Si t'as plusieurs événements qui se suivent, ben là, faut que tu penses un petit peu à ton affaire, puis t'essaies d'inclure, je te dirais, au moins aux 10 jours, une séance de maintien. Fait que là, on parle, tu sais, de pas nécessairement utiliser les charges que tu utilisais dans ton off-season, mais au moins un 85-90%. Puis même si je vais faire un 4 répétitions maximales, ben, je vais mettre quand même 90% de ce que je mettais. Ça devient un peu un sous-maximal, mais tu vas quand même aller chercher les gains de maintien que tu veux.
Ouais.
Puis si tu fais une séance à peu près au 10 jours, que tu la places bien puis que tu ne fatigues pas, tu vas pouvoir traîner tes acquis là, pendant les 12-16 semaines presque. Là. C'est impressionnant à quel point tu peux maintenir. Là.
Ouais.
Mais c'est ça. C'est fait que des fois, les gens ils sentent un peu mal d'en faire moins in-season et tout. Le danger, c'est d'arrêter complètement parce que là, ben, tout le travail que tu as fait, tu veux quand même, tu sais, qui te reste dans ton année de compétition, là, si tu as plusieurs compétitions qui suivent sur 3-4 mois. Fait qu'il faut continuer à en faire, mais c'est sûr que là, tu peux en faire un petit peu moins. Puis si tu as des grosses périodes mortes, mettons de un mois et demi entre deux compés, ben là, je peux me faire un petit bloc de 2 à 3 semaines que je vais réinclure deux séances, puis je vais faire des vrais 4 RM, par exemple.
Là, ouais. Tu parles de saison puis de off-season. À quel point est-ce que c'est important d'avoir je sais pas si tu appelles ça de la, je sais pas si ça rentre dans la périodisation de l'entraînement, de faire des cycles comme ça.
Ouais.
Mais encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Christian Blumenfeld puis de Gustav Widen en triathlon. Eux autres sont allés au Championnat du monde à Kona faire l'Ironman. Deux semaines après, il y avait une autre affaire. Ils repartaient en camp tout de suite après. Puis c'est comme 365 jours par année de grind, là, tu sais. Puis c'était ça, j'entendais ils sont allés sur le podcast de Rich Roll, qui est un podcast vraiment écœurant. Puis le gars, il disait, nous autres, on fait ça depuis qu'on a 12 ans, puis au début, on était 8. Genre, c'était comme un programme d'équipe nationale de triathlon, tu sais, puis on était 8 au début, là, on est 2, tu sais.
Ouais, il y a des soldats qui sont tombés.
Là, on est les 2, puis nous autres, on est capables d'endurer une affaire de même. C'est quoi ton opinion, c'est quoi que la science nous dit sur justement les saisons off-season, les cycles d'entraînement comme ça versus un training en continu?
C'est sûr que si tu veux maximiser, il y a deux philosophies en fait. Il y a la philosophie, puis tu sais, les Norvégiens sont plus comme ça vraiment, mais ils ont été beaucoup comme ça dans le passé. C'était un peu du marche ou crève, là. C'était comme, on a une masse, on fait tout le même entraînement, puis ceux qui survivent, ça va être nos champions olympiques, puis c'était le cas, tu sais. Mais 95% des autres, ben, ils droppaient, puis ils arrêtaient, puis le ski de fond, puis ils finissaient par haïr ça quasiment. Ouais. Malheureusement, c'était ça. T'sais. Puis t'as l'autre mentalité de dire, ben moi, je vais prendre chacun des athlètes, puis je vais individualiser, je vais périodiser, puis je vais regarder, je vais me prendre, je vais m'acclimater comme coach, là, peut-être un 6 mois à voir, oups, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi qu'on pourrait travailler pour qu'il pourrait l'avantager, puis d'individualiser vraiment chaque programme à chaque athlète. Mm-hmm. Ça prend beaucoup de temps, mais je te dirais que les bons coachs vont le faire. Si ton but, c'est de maximiser chaque être humain, puis que c'est pas nécessairement les médailles olympiques,
ce qui devrait être essentiellement l'objectif. Là,
moi, j'avais beaucoup cette philosophie-là. Je voyais un athlète, puis bon, tu t'acclimates à lui, puis après ça, tu essaies de maximiser personnellement c'est quoi que lui a besoin le plus. Ouais. C'est sûr que les plans, ils se ressemblent un peu, mais tu vas y chercher des petites touches personnelles pour essayer d'amener cet être humain-là à son plein potentiel. Puis c'est pas vrai que chaque athlète peut devenir un champion olympique, mais il y a bien des athlètes qui sont des champions olympiques parce qu'ils ont eu les bons plans puis ils ont grindé, que d'autres qui ont juste surfé un peu sur le talent.
Qui ont survécu, là.
Exactement.
Survécu au programme, là.
Exactement. Ouais. Ben, pour revenir à ta question...
Parce qu'il y avait aussi, tu sais, là, j'ai dit ces exemples-là de ces gars-là que je savais pas exactement c'est quoi leur programme. Peut-être qu'ils en ont des périodes vraiment mortes à rien faire, mais tu sais, je vais prendre Michael Phelps qui... de façon famously a nagé 365 jours par année pendant 4 ans de 2004 à 2008. Là.
C'est une mauvaise pub quand même, je trouve, pour les jeunes qui pensent que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Puis il faut qu'ils soient tout le temps quasiment fatigués parce qu'il faut qu'ils fassent tout entraînement à 100%. Puis c'est normal de demander que tu es fatigué. Puis honnêtement, la périodisation de l'entraînement, on dira ce qu'on voudra, mais... en tout cas, moi, dans les sports que j'ai entraînés, c'est pas mal les meilleures méthodes si tu veux piquer au bon moment.
Ouais.
Je pense que justement, t'en parlais avec David ou avec un autre, que demander, toi, ça t'a pris 6 semaines pour arriver et être bon parce que t'étais tellement
pété.
On
était en surentraînement. En natation, on était en surentraînement constamment. Fait que ça prenait des tapers pas possibles.
C'est ça.
De un mois quasiment à rien calisser. Rendu là, c'est quasiment comme si tu flippais un 25 cents pour voir si tu vas arriver la bonne journée. Genre, ta compé, elle dure 3 jours. Pendant un mois, tu tapes. Fait que ton pic, il est quand? Fouille-moi, man, exactement. On prend un guess, là, à chaque fois, on prend un guess, puis, tu sais, moi, la phrase, j'ai chié mon taper, je l'ai entendu vraiment souvent, là, en natation, tu sais, quelqu'un arrive à une course, à une compétition, mettons, là, surtout dans un sport où est-ce que les essais olympiques, c'est une compétition, là, c'est pas genre, tu fais un standard, faut que tu fasses un standard une fois dans une compétition, tu y vas, c'est quand t'as une compétition, faut que tu sois bon cette compétition-là, quelqu'un arrive, il y a le talent, il y a l'entraînement, il y a un pressenti pour gagner, pour aller sur l'équipe olympique, ah man, j'ai chié mon taper, genre man. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as chié ton...
Moi, je pense que t'as peut-être plus chié ton entraînement.
T'as chié le programme, là.
Exactement.
Ouais, c'est ça, le programme, t'as chié le programme, là. Ouais.
Parce que, tu sais, honnêtement, pour en avoir coaché beaucoup des athlètes, là, c'est bien plus facile de prédire un peak performance avec une périodisation où tu vas avoir de la modulation dans l'entraînement que d'avoir... une périodisation qui est très linéaire avec à peu près le même volume, le même taux d'intensité, le même travail sur les mêmes filières tout le temps. Mm-hmm. Puis d'après ça, arriver à une compétition puis t'espérer que la magie se passe. Ouais. Quand l'athlète n'a pas eu de repos, puis là, son seul repos, c'est son taper finalement.
Ouais.
Moi, je trouve que pour le coach, c'est beaucoup... Puis il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est beaucoup plus facile de voir des cycles puis de prédire une performance optimale si... Ton training plan, annuel, ben c'est un peu un essai que tu fais pour ton peak performance. Dans le sens que tu fais... Ben, y a plusieurs mentalités d'entraînement. Tu sais, du polarisé, du pyramidal, peu importe ce que les gens utilisent. Mais tu sais, de faire, mettons, un bloc de volume, un bloc d'intensité, donner un peu de repos, voir avec un entraînement clé, qu'est-ce que ton athlète est capable de donner cette compétition-là mm-hmm. que tu lui as décidé qui est une compétition X complémentaire Random, ou un entraînement.
Un tune-up.
Voir un peu c'est quoi ses temps. T'sais, en ski de fond, c'est difficile parce que tu compares tout le temps aux autres. En natation, c'est plus
ultra
facile.
C'est ultra facile.
En athlétisme, c'est ultra facile. Ouais. Puis ensuite, reprendre un peu ce bloc-là, puis tu sais, de l'adapter, de le mettre un peu à la hausse pour voir bon comment il va réagir si on augmente un peu le volume, puis on fait un peu de volume. Après ça, un plus d'intensité, moins de volume, puis on fait un taper. Comment il va réagir à ça? Les êtres humains, ils réagissent tellement différents à plein d'états d'entraînement. Mm-hmm. Fait, il faut que ton training plan il devienne un peu ton laboratoire pour chacun de tes athlètes à voir comment il va réagir. Ouais. Mais c'est sûr que si, à un moment donné, tu tapes toujours sur le volume, tu tapes toujours au développement du VO2 max pendant 10-12 semaines, tu as une fatigue physiologique qui s'installe, qui après ça, c'est un peu irréversible, malheureusement, dans les 3-4 prochaines semaines. Fait que c'est sûr que si tu veux piquer, tu fais 12 semaines linéaires, pareil, à faire les mêmes types d'intensité, que tu fais un TP de 10 jours et t'espères performer là, ben je sais pas quel magicien est l'entraîneur, mais tu sais, moi, j'aurais de la misère à prédire
que ça va être si, là.
C'était où finalement qui était le meilleur là, tu sais, tu fais une erreur, tu retournes dans le passé, puis là tu regardes c'est quoi ces entraînements clés qui a eu le plus de succès. C'était-tu à la 6e semaine de son bloc linéaire? C'était-tu à la 12e? Ben là, j'apprends de ça. Puis bon, sa compétition était au bloc à la semaine 18. Ben là, je ne ferai plus cette erreur-là. Puis je vais y faire un bloc linéaire de 12 semaines, mais je vais l'arrêter au bon moment pour sa compétition où je vais le faire. Je vais commencer son entraînement spécifique plus tard pour être sûr qu'il pique au bon moment. Fait que je pense que l'erreur qu'on fait, c'est souvent de ne pas apprendre de nos erreurs, justement, puis de juste répéter la même chose, puis penser que ça va aller mieux la prochaine fois. Ah, ben, tu sais, c'est normal, il est jeune, il faut juste qu'il en prenne un peu plus, puis tu sais, il en prenne un peu plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le corps fonctionne pas comme ça. Le corps a besoin de périodes de volume, de périodes d'intensité, de périodes de repos pour absorber tout ce que tu y as enseigné, puis ensuite repartir sur des bases qui sont un peu plus fresh. C'est normal de générer de la fatigue chez un athlète, tu veux en générer, parce que sinon, il y a pas d'adaptation.
Ouais, c'est ça.
Mais si ton athlète est tout le temps en état de fatigue pendant 6 semaines, ben là, les adaptations, ils se font plus. Là. C'est plus normal. Là. Donc, c'est normal à la fin d'un bloc. Mais tu sais, si t'es dans la plus grande fatigue de ta vie, 10 jours avant ton plus grand événement,
ça regarde mal.
Ben, bonne chance pour piquer. Tu vas surcompenser, mais tu vas revenir à ton baseline probablement. Parce que là, l'entraînement, t'as probablement amener en bas de tes capacités normales.
Fait que tu vas juste revenir
à ton baseline. Finalement, tu n'auras pas eu de game. Tu sais, tu vas refaire le même résultat. Puis tu vas faire, ben, ça n'a pas marché, mon entraînement. Ben, ça a marché, c'est juste ça a été trop intense, trop longtemps. Tu sais. C'est juste qu'il faut que tu modules pour que ton baseline, ben, oui, des fois, tu vas aller en bas de ton baseline, mais pour te reposer, pour remonter, puis repartir en haut, puis là, tu sais, générer cette adaptation-là. Souvent, tu sais, on crée une adaptation. Fait que là, on augmente la forme, puis là, de m'emmener, la forme elle commence à redescendre, mais c'est où là? C'est où dans la curve que la forme a recommencé à descendre? Puis là, faut cibler ce moment-là pour dire OK, à ce moment-là, il faut que j'arrête, je donne du repos pour qu'il se restabilise, pour être capable de remonter
encore. De continuer à partir vers le haut.
Vers le haut, puis ne pas drainer vers le bas. Puis là, je donne miraculeusement un 10 jours de repos avant sa compétition, puis espérer qu'il va
non seulement
qu'il va piquer, genre à l'Everest. Là, ça marche pas comme ça. En 10 jours, le corps, il va pas quadrupler ses capacités là, s'il est rendu dans le fond du baril, là, ça marchera pas. Ça va y prendre 4, 6, 8 semaines, justement, à faire ça.
Puis, l'idée de... Tu sais, comme là, moi, en ce moment, je fais un essai de temps sur 5 km à l'intérieur, là, fin février. Puis l'idée, c'était d'aller chercher une zone que j'avais pas travaillé dans... Tu sais, parce que là, moi, je redécouvre un nouveau sport. Fait que là, comme 4 ans, je suis parti à zéro, là, tu sais. Puis genre, avec un bon background d'athlète, d'être capable de m'entraîner, mais je repartais à zéro dans ma pratique de ce sport-là. Fait que j'avais beaucoup de place pour l'amélioration. Puis là, je faisais, tu sais, training de marathon. Après ça, là, j'ai fait l'été passé, training d'ultra. Puis là, j'ai décidé de faire un bloc plus de speed. Est-ce que changer les objectifs comme ça, ça permet une meilleure adaptation? Tu sais, à place de faire, mettons, OK, build... Tu sais, puis là, on parle d'un un build là, bien fait, là, tu sais... pour éviter ce qu'on vient juste de parler là. Mais à la place de faire build de marathon, off-season, build de marathon, off-season, de changer les objectifs comme ouais. ça, c'est-tu, y a-tu un avantage dans le développement?
Ben, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a de la littérature absolument claire là-dessus, mais je te dirais que par expérience, je te dirais absolument oui, parce que ça te permet de travailler d'autres filières, d'autres capacités physiologiques que tu vas jamais toucher. Puis l'erreur qu'on fait souvent, c'est justement de taper sur le même clou, mais de un moment donné, quand ton clou il est enfoncé, là, tu tapes dessus, ça rentre plus. Là. Fait qu'on tape sur les mêmes filières, on tape juste sur le volume, juste sur le tempo pendant 16 semaines, il y aura plus d'amélioration qui va se faire à un moment donné. Fait que c'est bien justement d'apporter des périodes où on va aller travailler d'autres choses. Puis ces périodes-là, comme que tu fais présentement pour améliorer ton temps sur 5, mais la speed que tu développes sur 5, ben après ça, si tu veux faire demi puis marathon, ben ça va t'aider sur ton sprint mm-hmm. finish, sur ta montée de côte dans ton demi, sur maintenir une vitesse critique qui va être 3-4 secondes de plus vite parce que tu t'es tellement entraîné plus rapidement que là, cette vitesse-là, t'es rendu, tu la maîtrises mieux au niveau, pas juste physiologique peu, mais musculairement aussi, ton mm-hmm. corps est capable de le soutenir, tu sais. Donc, d'apporter des nouveautés dans l'entraînement, absolument. Tu sais, moi, j'ai entraîné des sprinteurs en ski de fond. L'effort, c'est 4 fois 3 minutes dans la même journée. Ben, ils faisaient quand même des sorties de 4-5 heures, des fois, de course à pied, de ski mélangé, hein? Pour avoir cette base-là là, de récupération. Tu sais, la zone 1, c'est super bon pour juste récupérer au day-to-day entre tes entraînements aussi après. On leur faisait faire de l'altitude, même si 2-3 minutes, ben, c'est pas la chose qui est la plus aérobique. Tu sais, c'est très aérobique, c'est quand même à VO2 max, là, mais tu sais, c'est pas un effort de 5-10 minutes quand même. Mm-hmm. Ils faisaient de l'altitude quand même. T'sais, on leur amène des adaptations qui sont hautes pour bonifier leur qualité principale qui est justement le 2-3 minutes à bloc. Là. Fait mm-hmm. que c'est sûr que, si tu, comme je te dis, si tu tapes toujours sur le même clou, ben malheureusement, je pense pas que tu vas réussir à améliorer tes temps tant que ça. Je pense que tu vas aller retrancher des 10, des 15, des 30 secondes.
C'est ça, mais il n'y aura pas des gros drops.
Il ne faut pas oublier là, que, mettons, Kipchoge, là, meilleur marathonnier au monde, il court vite. Là.
Ouais.
Tu le mets sur 5000. Il
court vite aussi.
Il est fort. Il n'y a pas juste du marathon.
Je pense médaillé d'argent aux Olympiques sur 10 kilos sur piste, je pense.
C'est ça, Kipchoge. Tu le mets sur 5, tu le mets sur le demi, il va sacrer une bonne volée à tout le monde. Puis d'après moi,
tu
il
le
va
mets sur 400 mètres, puis il va torcher tout le monde.
Ben, il va me torcher moi, ouais, c'est sûr. Là, moi, en tout cas, fait, c'est ça, faut pas oublier que ces athlètes-là, ce type d'athlètes-là, ils sont pas juste endurants. Là. C'est sûr mm-hmm. que si tu le mets à côté de Usain Bolt, c'est une autre affaire. Il n'y a pas la même vitesse maximale que Usain Bolt. Mais sa vitesse sur 3000, 5000, 10000, elle reste extrêmement élevé, est très proche de sa vitesse maximale, probablement, mm-hmm. comparé mm-hmm. à Usain Bolt qui a une vitesse maximale qui est au plafond, puis lui, il n'est pas au plafond, mais ouais. sa capacité, sa VAM, là, lui, est proche de sa vitesse maximale, comparé à Usain Bolt, que lui, sa VAM est probablement basse, sa vitesse aérobie maximale est basse, mais sa vitesse max est ultra élevée.
Ouais,
ces gars-là, il y a quand même une gear sur les autres distances là, plus courtes. Là. Je ne dis pas sur 100 mètres, comme je te dis, mais fait, lui, il a travaillé ça plus jeune aussi, puis il a travaillé d'autres, ben, ça reste de la course à pied, mais il a travaillé ces éléments-là plus jeunes. Puis, mm-hmm. Comme je te dis, il sacque une volée sur 3000, 5000 à qui le voudra.
Oh, ouais. Main, c'est là. Sûr.
Il n'est pas juste bon sur le marathon.
Non, exact.
Il est capable de courir 2 marathons en 2 demi en bonne une heure.
C'est ça.
Il n'y a pas grand monde au monde qui soit capable de courir un demi en bas d'une heure. Ouais. C'est impressionnant. Là.
Ouais, mais hein. Tu parlais de la zone 1, là, de sous le seuil d'aérobie, dans le fond. Là.
Ouais.
C'est quoi l'importance de ça dans les sports d'endurance? Je sais qu'on en a déjà parlé, qu'on sait que c'est important, mais c'est quoi ton opinion sur qu'est-ce que ça devrait représenter en termes de pourcentage de ton training? Puis c'est quoi les bénéfices réels de faire de la... Parce que moi, la zone 1, j'ai appris à la découvrir à travers la course à pied plus mm-hmm. que dans ma carrière de natation, c'est plus lent que ce que tu peux penser.
Oui, tu sais, moi, ma zone 1 normale, là, je cours à 5,30.
C'est ça.
5,45 des fois. Là.
C'est ça.
C'est très lent. Ouais.
Puis, fait que c'est quoi ton opinion, puis qu'est-ce que tu penses de,
ben,
de ça?
Tu sais, honnêtement, ma trail, je te dirais, pour, mettons, le sport que je fais, c'est marathon, trail principalement.
Ouais.
C'est beaucoup, il y a du temps sur les jambes important.
Ouais, ça, c'est clair. Ouais.
Un autre aspect qui est important, c'est l'adaptation des tissus. T'sais, on parle de physiologie, mais au niveau musculaire, adapter tes tendons, adapter tes muscles à se contracter, relâcher pendant deux heures, trois heures, c'est quand même important. Si, mettons, ton objectif, c'est de faire 10 km, la zone 1 est très importante. Puis si tu penses que faire juste 40, mettons, 40 minutes de zone 1, parce que ton objectif, c'est 40 minutes sur 10, juste faire 40 minutes de zone 1 par-ci, par-là, ça va t'aider. Ça va t'aider un peu, mais c'est pas assez pour créer cette adaptation-là. Il faut vraiment aller chercher des temps d'effort qui vont être un petit peu plus longs que les efforts que tu veux faire. Bon, moi, je fais du 160, puis je te dirais pas que je fais 3-4 sorties de plus que 160
30 heures de temps. Là.
Ça marche pas, là. Mais tu sais, de viser un peu plus long pour que le corps s'habitue à ce loading-là, justement, tu sais, que l'adaptation musculaire, tissulaire se fasse, prévention des blessures aussi, tu sais. Si tu fais jamais de zone 1 puis que tu essaies de sprinter pour faire le 1000 mètres le plus vite de ta vie, ben, tu passes de pas grand-chose, de aucun stress physiologique à un stress physiologique qui est maximal. C'est même les meilleurs athlètes de très court vont quand même faire un petit peu par-ci par-là de base aérobie, des fois juste en off-season, mais ils en font quand même pour adapter leur tissu à encaisser quelque chose qui va être un petit peu plus tough plus tard. Puis ensuite, un autre aspect, ben, c'est certainement l'aspect récupération. Parce que c'est prouvé scientifiquement, là, c'est bulletproof que les athlètes qui intègrent beaucoup la zone 1 dans leur entraînement, ben, ils vont récupérer mieux entre leur intensité. Entre leur entraînement, ils vont être capables de mieux récupérer aussi, puis ils vont être capables de produire un effort qui va être à la hauteur de ce qu'ils devraient faire à chaque fois, plutôt que de justement pas en faire, puis d'avoir une grosse intensité repos complet, grosse intensité repos complet. Donc, tu es capable de produire un petit peu plus. Puis là, ben, la zone 1, ça peut varier. Ça peut être, pour un sprinteur de 100 mètres, ça peut être aller jogger 10 minutes en début de saison. Puis pour un marathonnier, ben, ça peut être faire 2 heures pour juste adapter tes tissus à la longueur de l'effort. Pour l'aspect récupération, stress sur les muscles, stress sur les structures, c'est adapter les structures. T'sais, on parle de quantification du stress mécanique. Je ne sais pas si tu connais Blaise Dubois, mais il est très fort là-dessus.
Ben, la chimie du coureur. Mais...
Voilà. Quantifie ton stress. Ben, si tu commences avec de la zone 1, puis tu y vas mollo pendant une heure, puis là, tu segmentes un peu, là, tu adaptes tes tissus tranquillement. Après ça, ben, quand tu as fait ton heure, ben là, commence à mettre de l'intensité là-dedans, puis etc. Fait que ta zone 1, elle prépare ton corps à des choses plus tough qui vont s'en venir. Puis éventuellement, ben là, quand tu te rends à un niveau que t'es quand même bon, tu te blesses pas, etc., ben la zone 1 va t'aider à récupérer entre tes événements, là, tes entraînements.
Mes deux premiers builds de marathon, là, j'en ai fait 4 des marathons, mettons, depuis que j'ai commencé à courir pour de vrai. Là, mes deux premiers builds, je me blessais tout le temps. Puis, tu sais, mon premier marathon était à 3h37, là, fait que pas mal plus lent. Là, j'étais à 2h50, mettons, fait que c'était pas mal plus lent. Mais mes courses dites easy, parce que je le faisais un peu n'importe comment, sont aussi vite que je cours maintenant, mettons, là, tu sais, quand je fais mes courses easy. Alors que là, je suis un bien meilleur coureur que j'étais avant. Sauf que mes deux premiers builds de marathon, troisième mois, scrappé complet à cause d'une blessure, puis là, t'arrives, puis là, t'essaies de finir ton build du mieux que tu peux en prenant des Advil à chaque jour, mettons, là. Puis depuis que j'ai vraiment compris comment lent ça peut être, puis comment il n'y a aucune différence à ce que tu fasses 5.30 ou 4.45, il n'y en a aucune, là, genre sur ton corps, sur ton développement.
Même que 4.45, probablement que tu es dans la zone grise qu'on veut pas être. Là.
C'est ça.
Tu parlais des seuils, là, ben, tu sais, mettons à 4.45.
Ben, moi, j'ai les en battement cardiaque. J'étais allé faire un test avec David, tu sais, fait que mes zones, je les ai clairement, fait que je suis capable, je me mets une strap tout le temps, je suis capable de rester là, tu sais, mettons. Ouais. Mais il n'y a pas de différence, là, tu sais.
Ben, tu sais, je veux dire, c'est qu'au niveau de l'adaptation, comme je disais, tissulaire, mais que, tu sais, mécanique, il n'y a pas de différence. Au niveau physiologique, il va y avoir une petite différence dans le sens que tu en parlais du lactate. Ben, quand tu vas un petit peu trop vite tout le temps, ben, tu as tout le temps cette petite accumulation de lactate-là qu'à un moment donné, pour un entraînement, c'est pas grave, on s'en fout. Mais si tu es tout le temps 1 millimol, 2 millimol trop haut, quand même en bas du seuil, mais quand même un peu trop haut, ben cette fatigue physiologique-là que ton corps y a à recycler. Puis jamais être en état de homéostatie, d'équilibre, ben ça entraîne une fatigue physiologique que sur des semaines, des mois d'entraînement, ça peut te casser. Puis ça, on le voit beaucoup avec les jeunes athlètes, tu sais, qu'ils veulent suivre les plus vieux.
Mm-hmm.
T'es-tu en zone 1? Ouais, je suis en zone 1. Ouais, non, t'es 10 battements trop haut.
Ouais.
OK, un entraînement, c'est pas grave. Tu sais, pour l'expérience que ça te donne, ça va. Mais là, il le fait pendant des mois. Puis là, il arrive aux compétitions complètement lavées.
Mm-hmm.
Ben, c'est parce que tu t'es entraîné trop fort, trop vite. Puis c'est pas parce que t'as pas fait les intensités comme il faut.
Quand il y avait des intensités, tu les faisais comme du monde.
C'est que tu as fait ta zone 1 bien trop tout le temps. Mm-hmm. La zone 1, ça a comme tu dis, c'est une grande partie de l'entraînement. T'sais, tu parlais tantôt de pourcentage, si on quantifie un peu. Là, ben, comme je te dis tantôt, présentement, il y a deux courants de pensée, un peu le pyramidal et le polarisé là, dans l'entraînement.
Ouais.
Puis là, tu sais, le polarisé, c'est la mode un peu, là. C'est, tu fais quasiment 85-90% de ton entraînement en zone 1, tu sais, à très basse intensité.
Mm-hmm. Ce qui est beaucoup,
ce
là.
Ce qui est beaucoup. Si tu fais, mettons, 10 heures, ben c'est 9 heures ou 8 heures et demie ou 8
heures. Fait qu'il y a pas t'sais. Beaucoup. Tu fais une coupe de 400 sur la piste, puis t'es rendu.
Puis ensuite, t'as un 5% que tu vas faire plus en seuil ou juste un petit peu en bas du
tempo.
Seuil, en tempo. Mm-hmm. Puis t'as un 5 à 10% que là, t'es à bloc. Là.
Ouais.
Là, c'est du VO2 max, puis de la grosse intensité et tout. L'autre penchant de tout ça, c'est le pyramidal que moi, j'aime mieux, en fait, que je fais beaucoup plus. C'est 80-85% en zone 1. Après ça, t'as un 10% peut-être en tempo. Fait que tu augmentes ta portion de tempo, 10 à 15. Là, 15, mm-hmm. c'est beaucoup, mais on va dire un 10 là, pour dire des chiffres. Puis après ça, t'as un minime... 3 à 5% que tu vas faire un petit peu plus élevé.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, la zone de tempo, de seuil, etc., qu'on parlait, ben tu la travailles beaucoup. Puis là, tu apprends à ton corps à recycler et être efficace dans ces zones-là. Puis pour des zones, des sports d'endurance, comme mettons l'athlétisme de fond, ou ben non, le ski de fond, le triathlon, c'est une zone que tu passes beaucoup de temps dedans en compétition. Là. Fait que ça, d'être capable d'être efficace à ces zones-là, c'est quand même assez intéressant. Puis ça, ben, ça
t'arrive. Un genre de 10-15%.
Ouais, même. Exactement. Ouais. Là, c'est plus pyramidal. Puis là, après ça, ben, tu peux faire des blocs de pyramidal, des blocs de polarisé après. T'es pas obligé d'être tout le temps en pyramidal. Là. Tu peux varier un peu tes méthodes. Mais moi, principalement, là, parce que je suis pas vieux, là, je veux pas offenser personne, j'ai juste 35 ans, mais quand je fais trop de polarisé et trop de vitesse tout le temps, ben ça me casse.
Mm-hmm.
Je suis plus blessé, j'ai de la misère à récupérer. Quand je passe plus de temps en pyramidal, je peux en faire des blocs là, à l'infini et ne jamais être fatigué, ne jamais me blesser. Là,
mm-hmm.
Moi, c'est personnellement, moi, c'est le polarisé, ça me fait moins. Fait que je suis beaucoup plus dans le pyramidal. Puis pour ce que j'ai à faire en marathon, ben, c'est
ça
un
marche,
petit peu plus spécifique à moi.
Exactement. Avant qu'on se laisse, je t'ai défini un petit peu tantôt l'audience cible du podcast. Ce serait quoi si t'as, mettons, nommé... Parce que là, toi, tu travailles avec des athlètes élites. Mais si t'avais à nommer... une erreur que tu penses que les gens comme moi font à éviter ou comme un gros une grosse affaire, mettons, que tu penses que la majorité des gens comme moi devraient savoir. Là, t'sais, pas les gens élites qui sont vraiment spécifiques, mais une erreur que tu penses que l'athlète moyen, mettons, fait. Je te lance un peu en dessous du boss, là, je t'en avais pas parlé avant.
Ben, la première chose que je te dirais, mettons, quelqu'un qui commence jeune, il y a des différences entre les deux, je pense.
Ouais, okay.
Quelqu'un qui commence un jeune sportif ou un jeune athlète, je te dirais, c'est d'aller trop vers le long, trop vite. De se spécialiser sur marathon trop vite, d'aller sur l'ultra trop vite. Parce que comme je le disais tantôt, quelqu'un de 18 ans qui travaille pas sa vitesse à ce moment-là, c'est pas à 35 ans que tu vas l'améliorer à 100%.
Mm-hmm.
Fait que t'es mieux de te spécialiser, si tu veux faire de l'endurance de très long, t'es mieux d'y aller un peu plus tard dans ta vie. T'sais, ça peut être juste 3-4 ans plus tard. Là. Ça peut être à 22 ans au lieu de 18,
mm-hmm.
ou ça peut être à 26 au lieu de 22. Mais quand tu commences, t'es mieux d'essayer d'être un petit peu plus rapide sur des distances qui sont un peu plus courtes, faire ta base là-dessus, t'sais, travailler beaucoup ta zone 1, comme on disait, travailler des bonnes séances de vitesse sur ces spécifiques à ces distances-là. Puis quand tu as maximisé ou quand tu es satisfait de tes temps, t'as fait ton 10 en bas de 35 ou ton 10 en bas de 40 ou 45, puis ça, c'était ton objectif, puis tu peux... grinder un peu dans cette zone-là encore un peu, tu sais, essaie de l'améliorer encore un peu, puis ensuite transige vers le plus long. Souvent, les gens, les jeunes aussi, tu sais, moi j'en connais beaucoup, là, qui veulent aller vers le très très long, très très rapidement, puis tu te dis, ouais, c'est peut-être pas pour ton développement à long terme, c'est peut-être pas la meilleure mm-hmm. chose que tu peux faire. Mm-hmm. Puis la deuxième erreur, ben, c'est souvent, première compétition que tu fais, ben, tu fais un marathon.
Ouais.
C'est-tu, ouais. T'as-tu fait ça?
Est-ce que j'ai fait ça? Oui, j'ai fait ça, je pense. J'ai fait le marathon de Québec. Première compétition de course à pied que je me suis inscrit, c'était le marathon de Québec.
T'es-tu blessé pas mal?
Oui. Mon build était horrible. Ouais. Je me suis blessé, là, vraiment comme... Puis, tu sais, moi, puis là, peut-être que les gens qui me l'ont déjà entendu ce soir-là, mais je m'entraînais 20 à 25 heures par semaine, ouais, quand je nageais ici avec le rougeur. Ouais. Fait que moi, quand j'allais courir, je vais pas courir 40 minutes, man. Oh, genre, c'est fuck all. Je m'entraînais 2 heures, des fois 4 heures par jour.
Les quantifications de stress, c'était
non, ça, moi, j'étais là, je vais aller courir, man. Je faisais des demi-marathons pour m'entraîner. Tu sais, j'étais comme... J'avais jamais couru de ma vie. J'avais les chevilles molles à cause de 20 ans de natation, tu sais. Puis je me suis blessé, man. Des fois, j'étais pas capable de marcher. J'avais mal aux aines. J'avais mal... Ben évidemment les périostites, mais en arrière aussi, des fois mon pied était pas capable de mettre du poids sur mon pied, des fachettes plantaires, des affaires, genre pas possible.
Tu sais, je te parlais d'adaptation des tissus, tu t'as pas mis de poids sur tes jambes pendant 20 ans, puis là, ben du jour au lendemain, deux heures de pounding sur tes jambes, ben c'est ça, mm-hmm. Donc, ta adaptation
fait que, ça pour dire que je marchais les ravitaux d'un 15 derniers kilos sur Grande Allée, là.
Exact.
Le monde me voyait, me reconnaissait, puis hey, salut, puis je marchais dans les ravitaux, je me mettais de l'eau dans la face.
Tu sais, le downside de ça, pénible. C'est que ça te prend un objectif pour te motiver, souvent, quand tu commences, tu sais, ça te prend un objectif pour te motiver à courir, mais souvent, je pense que l'erreur que les gens ils font, c'est qu'ils mettent dans les prochains 4 mois, 6 mois, même un an, je trouve que c'est vite. Mets-toi un objectif dans 2 ans. Entraîne-toi de façon intelligente pendant 2 ans pour atteindre ton objectif de marathon, ton premier marathon. Je vais courir mon premier marathon dans 1 an et demi au lieu de dans 6 mois. Donne-toi une durée qui est plus longue. Si tu as besoin de te fixer un objectif, comme 100% des gens ont besoin de le faire, là, peu importe, les gens, ils disent « Ah, ben, moi, je cours juste pour le fun, mais ils vont quand même faire un sprint de pancarte pour voir s'ils sont meilleurs. »
Je comprends.
C'est juste
un
des
sprint
fois...
de pancarte. C'est bon, le premier rando, quoi.
C'est ça, ben, c'est ça, pareil. On en fait tout quand même encore. Mais c'est ça, c'est d'avoir une fixation d'objectif qui est trop rapide en termes de temps sur la quantification du stress, justement, qu'on disait tantôt, sur l'adaptation que tes tissus sont capables de prendre dans le temps. Tu sais, ça prend pas 3 ou 4 semaines à passer de pas courir à avoir des tissus qui sont pleinement adaptés. Ça va, pour une distance de marathon, là, c'est des mois et des mois, puis il y en a que c'est des années.
Ouais.
Donc, tu sais, fixe-toi un objectif, mais pas dans 4-6 mois. Fixe-toi là dans 1 an minimum si t'es pressé, puis sinon, va vers le 1 an et demi, entraîne-toi intelligemment, progresse vraiment bien. À travers ça, tu peux te lancer des petits défis, mais t'es pas obligé de mettre ça comme étant j'arrête de courir si jamais ça marche pas, là, t'sais. Mm-hmm. C'est des petits défis par-ci, par-là. Puis dans 15 mois, 18 mois, fais ton objectif, tu vas avoir eu le temps de t'adapter, de moins te blesser, t'es moins stressé à faire
du volume,
des intensités qui ont plus de bon sens. Ton corps va être adapté. Prends 1 an pour t'entraîner ou 6 mois juste pour t'entraîner, adapter tes tissus. Puis après ça, entraîne-toi pendant un autre 6 mois sérieusement pour un événement. Ou 1 an pour un événement. Puis là, t'as bien moins de chances de te blesser parce que en faisant ce protocole-là, ben, t'as bien plus de chances de pouvoir inclure un peu de muscu, de renforcement musculaire parce que tu prends ton temps. Puis t'es pas pressé à OK, là, le 1er janvier, ma résolution, c'est de courir le marathon d'Ottawa au mois de mai. J'ai pas couru, ça fait 10 ans. Là, ben, bonne chance. Ça se peut que tu te blesses pas. Tant mieux pour toi si tu te blesses pas, mais sûrement que tu maximiseras pas ton temps. Si ton but c'est juste de le courir, ben encore une fois c'est correct, mais probablement que tu vas le courir avec des blessures malheureusement parce que c'est pas un...
Ça va être pas mal moins le fun aussi, là.
C'est pas un gros gap de temps pour une épreuve qui est aussi exigeante. Je pense que les gens des fois ils sous-estiment un peu le marathon sur la distance, sur l'exigence au niveau corporel que ça a, là. C'est pas facile, tu sais. C'est la même chose pour les 160 ou en trail, tu sais.
Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sous-estime les 160
kilomètres. Je pense que oui. Moi, je pense qu'il y en a qui s'inscrivent puis que
moi je suis le premier à m'inscrire puis à pas finir des courses.
Non, mais une différence parce que toi, tu sais, tu t'en es quand même depuis 3-4 ans en course, là. Puis tu sais, je veux dire, les premiers 6 mois, t'as pas visé le 160.
Non, c'est ça.
Il y a quand même une certaine progression, mais il y a du monde qui n'ont pas couru, là, puis que l'année prochaine, ils font un 160. Mm-hmm. Puis,
c'est du stock.
Là. Je rappelle aux gens que, mettons, sur un 160, des fois, moi, je vais tellement chercher loin dans l'effort que je fais pipi brun parce que je suis en espèce de rhabdomyolyse, puis mes muscles se désintègrent. Là. Puis là, on va chercher un autre affaire. Là,
puis tu te réinscris l'année d'après.
C'est ça. Tu es rendu dans une affaire où tu sais c'est pas santé un petit peu. Puis là, en plus, tu n'as jamais couru, puis tu veux aller faire ça. Malgré tous les risques que ça a, prends ton temps, fixe-toi des choses plus longues, surtout quand tu commences, puis ça va mieux aller, puis tu vas pouvoir continuer plus en santé. Après, tu vas avoir une belle expérience.
Ouais, c'est ça.
Tu vas pas arrêter parce que tu t'es fait mal au périostite, puis là, je peux plus courir parce que je fais des périostites. Ben non, c'est parce que t'as été bien trop vite.
Il y a du monde qui me demande, parce que je parle beaucoup de course à pied, le monde pense que je suis un expert. Loin de là.
T'en connais plus.
Peut-être la moyenne des gens, mais. Puis le monde m'écrit hey, qu'est-ce que je fais contre les périostites? C'est-tu mes souliers? C'est comme. C'est sûrement pas tes souliers. Si tu fais des périostites, c'est vraiment probablement parce que t'as trop buildé vite.
Il y a 30 facteurs différents, mais le facteur le plus probable, c'est tu ne fais trop vite. Puis t'as pas eu d'adaptation assez intelligente.
Fameuse périostite.
Hey. Ah, bandelette périostite. Ouais, exact. Mollet, pied, omelette. En course à pied, on est. C'est le sport qu'il y a sûrement le plus de blessures. Là, c'est même pour les athlètes de haut niveau. Eux autres, ils font plein de muscu, de renforcement, mais ils sont tellement dans l'intensité qu'à un moment donné, c'est normal qu'ils se blessent une fois de temps en temps. Hein. Tout le monde se blesse. Faut pas oublier. Même les Olympiens se blessent. Puis ça arrive. C'est juste faut pas se décourager. Faut refaire les choses comme il faut. Puis il faut push through it.
Mais en même temps, après ça, tu regardes un gars comme Mathieu Blanchard qui dit qu'il est pas raqué après 8 TMB. Puis tu fais comme « Ah! » On n'est pas tout fait pareil. Là.
Ben, il se prépare bien. Je ne parle pas beaucoup à Mathieu, mais j'ai une couple de discussions avec lui. Je suis d'accord avec lui que quand tu t'entraînes bien, même pour un 160, le lendemain, moi, pour le faire,
serait correct le lendemain.
Je suis raqué, j'ai mal au tendon d'Achille un peu, je marche, mais au fil de la journée, whoops, ça passe. Mm-hmm. Je ne suis pas si raqué que ça parce que ma préparation
était adéquate.
Ouais. Tu disais que justement à ton 125, le lendemain, tu t'entais quand même
comme
très
si de
bien.
Rien était, là,
c'est parce que au niveau volume, tu avais fait des choses intéressantes, puis ton build-up était intéressant. Puis c'est normal d'être raqué et d'être un peu magané, mais de là à pas pouvoir marcher pendant 6 jours de temps, là, c'est peut-être que ta préparation était manquante.
Cool, hey, merci beaucoup pour ton temps, man.
C'était
super cool.
C'était une très belle discussion.
Yes.